Donc ce soir, nous commençons un cycle qui portera donc sur les grandes morales, une initiation aux grandes morales avec les précautions qui s'imposent, puisque vous vous doutez bien qu'il s'agira d'un balayage qui ne pourra pas être approfondi, mais qui s'efforcera quand même d'être interrogatif et pertinent. Et la première rencontre, donc, a pour sujet qu'est-ce qu'une morale ? C'est donc ce que je vais m'efforcer de traiter avec vous ce soir. La question morale est prise entre son évidence, car en dépit de ce que l'on fait semblant de croire, rien n'est plus clair qu'une exigence morale. Ne pas tuer, ne pas mentir. Ne pas voler, jamais personne n'a barguigné là-dessus, et l'exigence morale est claire pour tout le monde. Donc on fait semblant de croire que c'est relatif, que c'est compliqué, etc. Alors que vraiment, ce qui caractérise une exigence morale est d'une simplicité cristalline. Mais cette évidence rentre en contradiction avec la difficulté de l'agir, avec la difficulté de sa réalisation. Car on a vite fait de compliquer la question dès que, justement, on se trouve en prise avec l'événement, avec la réalisation même. Car ce qui est moral, ce n'est évidemment pas la connaissance des principes. Sinon, nous serions tous vraiment des sujets parfaitement blancs. Ce qui est moral, ce n'est pas la connaissance des principes, c'est l'action. Et dans cette action, très vite, les complexités apparaissent, puisque si on dit ne pas tuer, bah, ça dépend, ne pas mentir, ça dépend, ne pas voler, même peut-être est-il bon de voler, comme Saint-Crépin qui vola du cuir pour en donner aux pauvres, ou comme la mère qui vole le pain pour nourrir ses enfants. Et donc... La question morale est prise entre son évidence et sa difficulté. Les difficultés sont de deux ordres. La première difficulté est, comme je le suggérais, dans la réalisation, c'est-à-dire que tout principe est général, toute action est particulière. Et les degrés qui mettraient en relation le général et le particulier ne sont pas faciles à déterminer et ne sont pas toujours faciles à franchir. C'est ce qui donne raison à ce que l'on appelle une casuistique. Vous savez qu'on appelle casuistique l'enseignement de la morale tel qu'il était pratiqué chez les jésuites, tel qu'il est caricaturé par Pascal dans les provinciales, où on examine la diversité des cas casuistiques. Et devant les cas, eh bien, on peut faire place à une grande variété de décisions, de réponses. Donc la première difficulté, c'est la difficulté à la réaliser, cette exigence morale. Et puis la deuxième difficulté, qui sera plutôt la mienne ce soir, car vous n'attendez pas de moi que je sois un modèle de morale. D'ailleurs, vous seriez déçus, mais comme vous ne l'attendez pas, vous ne serez pas déçus. On ne demande pas à quelqu'un qui parle de morale d'être lui-même un sujet éminemment moral. Heureusement. Sinon, nous serions alors pour le coup tous condamnés au silence. La deuxième difficulté, donc c'est la première, c'est de la réaliser, cette morale. La deuxième difficulté, c'est de la justifier. C'est justement de la justifier face à la diversité des réponses, face au scepticisme, voire au cynisme qui peut, avec morgue, clouer le bec à toute prétention morale en disant, après tout, chacun fait ce qu'il veut, la morale est une oppression, etc. Vous connaissez le discours, on ne va pas le développer. Et donc, il est vrai qu'au fond, on a beaucoup de peine à justifier, ce qui ferait que, par exemple, je me refuserais une action qui est possible, mais qui ne fait de mal à personne. On a beaucoup de mal à justifier que, comme le dit Socrate, qu'il vaille mieux subir l'injustice plutôt que de la commettre. Donc cette évidence morale, si évidente soit-elle, se heurte à la difficulté d'en rendre compte, et en particulier d'en rendre compte à notre interlocuteur, qui est donc l'homme de l'opinion. Vous savez que le philosophe a un interlocuteur invisible et omniprésent, c'est l'opinion. Et l'opinion, eh bien, c'est la position de celui qui refuse de s'expliquer, refuse de discuter, dit c'est comme ça et pas autrement, et qui appelle un chat, ce qui n'est pas très inventif. L'opinion, au fond, c'est la position qui ne se préoccupe pas de rendre compte d'elle-même. Et si l'on demandait d'ailleurs à l'homme de l'opinion de se justifier, eh bien, il faudrait qu'il cesse d'être l'homme de l'opinion. Donc la difficulté de la philosophie, c'est que son interlocuteur est celui qui ne veut pas de philosophie. Mais l'interlocuteur d'un philosophe chrétien, ça n'est pas un philosophe athée. On est d'accord, on est collègues, on peut discuter. Mais le vrai interlocuteur du philosophe, c'est l'homme de l'opinion induré, la tortue de l'opinion, qui se replie sur elle-même et, de se justifier, n'a aucun souci. Si bien que d'ailleurs, dans les dialogues de Platon, on voit les interlocuteurs de Platon, au bout d'un certain moment, faire la gueule. Et dire, si c'est comme ça, je cause plus. Parce qu'il y a un moment où la violence même de l'opinion est mise au jour par l'accouchement de la parole. Donc la violence est muette, l'opinion est muette, ou bavarde, ce qui revient au même, parce qu'elle refuse de se justifier. Donc voilà l'étrange défi auquel on a affaire dans cette réflexion sur les grandes doctrines morales. C'est au fond de commencer par répondre à l'homme de l'opinion qui serait en face de nous. Alors c'est pas vous, hein. Faut que j'arrive à me construire un portrait robot en face de moi d'un mec qui dit à quoi bon ? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je peux lui cogner dessus. Mais bon, ça rentre pas dans la charte. Et donc il va falloir que je m'efforce de faire venir à la parole celui qui n'a pas d'autre réponse que à quoi bon, et c'est comme ça parce que c'est comme ça. Il rajoute même parfois c'est comme ça et pas autrement, pour plus de précision. Donc ce soir, je ne définirai pas la morale, car rien n'est plus ridicule que de commencer par une définition. S'il y a parmi vous des gens qui ont subi un enseignement dans lequel on leur dit qu'il faut commencer par une définition, je les émancipe tout de suite. Si on commençait par une définition, la philosophie serait terminée. Il suffirait d'ouvrir un dictionnaire. L'acte de la philosophie, c'est justement d'élaborer une définition. Et de l'élaborer le plus possible avec l'interlocuteur. C'est ce que Socrate nous a appris. Alors, vous, ce soir, vous êtes des interlocuteurs qui ne s'exprimeront sans doute pas beaucoup, parce que je vais beaucoup parler tout seul. Il n'empêche que vous êtes là, et que cette définition, je vais la mettre en genèse autant que possible, pour qu'on puisse voir apparaître la notion, plutôt que de la définir a priori d'une définition de dictionnaire qui resterait toute formelle et impuissante. Car une définition n'est jamais, au fond, que l'aboutissement d'un cheminement et d'une décision philosophique. Dialectique, c'est ce que cela veut dire. Dialectique, en grec, signifie dialogue, et dialectique. Et donc la dialectique à laquelle Platon et Socrate nous ont initiés, c'est le dialogue qui a pour objectif justement d'arriver à une définition et non point d'en partir. C'est la différence entre une démonstration et une dialectique. Une démonstration part des définitions, comme en mathématiques. Une dialectique arrive à une définition. Donc ce soir, je vais me livrer avec vous à cet exercice de dialectique qui consisterait à élaborer l'idée d'une morale. Et cette élaboration d'une morale, dont nous retrouverons les caractéristiques dans les cinq grandes doctrines que nous examinerons, passera par trois moments. Premier moment, qu'est-ce qu'une décision ? C'est-à-dire, pour comprendre ce que c'est qu'une exigence morale, il faut d'abord comprendre qu'une exigence morale, c'est ce qui se fait jour dans une décision, pas dans un jugement. Dans le jugement, on est tous bons, hein, mais dans une décision. Deuxièmement, à quelle anthropologie cette décision renvoie-t-elle ? C'est-à-dire, qui est cet homme qui a à décider ? C'est étrange. Qui est-il ? De quoi est-il fait ? De quel tissu est-il fait ? Puisque au fond, on peut dire que c'est le propre de l'homme que d'avoir à décider de sa vie, que de prendre conscience qu'il a à décider de sa vie, que donc il n'est pas nécessairement le jouet des circonstances ou d'un quelconque destin. Et puis, dans une troisième partie, je montrerai les enjeux métaphysiques de cette décision. C'est-à-dire qu'après avoir éclairé quelque peu qui est cet homme qui a à décider de lui-même, on sera conduit à se demander où est-il ? Dans quel monde est-il ? D'où est-il tombé ? Et finalement, quelle est la portée des décisions qu'il peut prendre dans un monde qui manifestement lui échappe ? Car j'ai les bras trop courts pour résoudre le problème de la faim au Soudan et celui des raz-de-marée au Japon. Et donc, que signifie que j'ai à décider de ma vie dans un monde où j'ai les bras trop courts et dans un monde que je ne maîtrise pas, où je peux avoir l'impression d'être tombé, finalement, étranger à ce monde. Voilà, donc il y aura trois parties, comme il se doit. Première partie, donc la décision morale. Deuxième partie, les problèmes anthropologiques que soulève cette décision. Troisième partie, les questions métaphysiques que soulève cette décision. J'insiste sans légèreté sur ce plan, parce que si vous revenez, ce que j'espère, pour suivre les enseignements sur la morale d'Aristote, la morale d'Épicure, d'Augustin, de Kant et de Sartre, c'est ce plan que je suivrai, c'est-à-dire au fond, quel type de décision ça renvoie, quelle anthropologie ça renvoie et quelle métaphysique ça renvoie. Donc là, ce soir, j'élabore les moyens que nous allons nous donner pour avancer. Donc je disais, la question morale apparaît en présence d'une décision pour celui qui prend conscience qu'il a à décider. On est tenté souvent, et c'est ce que vous trouverez dans les dictionnaires, d'assimiler la morale à des règles de vie, des principes, des devoirs. Cette définition de dictionnaire me semble vraiment en carton-pâte, car je ne crois pas jamais, et je pense qu'aucun d'entre vous ici ne pourrait en porter témoignage, je ne crois jamais avoir décidé dans ma vie en fonction d'un principe, d'une règle, d'un devoir. Jamais personne ne se dit « ce qui est juste, c'est de faire ça, donc je vais le faire ». Les principes, les valeurs, les devoirs, je ne sais, enfin on le saura, j'espère, à la fin du cycle, transparaissent dans la décision, se font jour dans la décision. Mais une décision n'est pas l'application d'un principe. Et au moment où j'ai une décision à prendre, débrancherai-je l'appareil de réanimation, ne le débrancherai-je pas ? Vais-je cacher cela dans mes impôts ? Ne vais-je pas le cacher ? Vais-je dire la vérité à ma femme ? Ne vais-je pas dire la vérité ? Etc. Au moment où j'ai une décision à prendre, jamais je ne consulte une quelconque table de principe. Alors comment ça se passe, la décision ? Et qu'est-ce qui fait que la décision est morale, alors même qu'elle n'est pas assimilable à la conclusion qui serait tirée d'une cascade de principes qui dégringolerait de la plus grande généralité à ce ponctuel et singulier auquel j'ai affaire quand je me dis « débrancherai-je l'appareil, ne débrancherai-je pas ?» Ou est-ce que je vais dire la vérité à mon conjoint ou à mon associé ou, je ne sais pas, à mon voisin ? Alors, il faut comprendre donc l'idée de décision. Pour comprendre l'idée de décision, il est bon me semble-t-il, de commencer par la distinguer du choix. Souvent, là encore, c'est dans l'opinion, on assimile la liberté à la capacité de choix. C'est gentil, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est à la limite complètement absurde. Car cette capacité de choix est la plupart du temps traduite par l'image de la balance. Délibérer la liberté, vous savez que cela vient des fléaux de la balance, Libra. Et délibérer, c'est soupeser et faire osciller les plateaux de la balance pour voir de quel côté la balance va se pencher, comme s'il y avait une pesée des choses. Mais s'il y a une pesée des choses, alors qu'en est-il de la liberté ? Il suffit de constater la pesée des choses. Une chose vaut plus, pèse plus, a plus de valeur. À ce moment-là, je ne choisis pas, je constate un ordre des choses. Alors, il faut distinguer le choix et la décision. Enfin, je propose de distinguer le choix et la décision en assimilant le choix, justement, à ce que serait ce calcul sur les choses. Donc, je choisis une voiture, je choisis un étudiant, je choisis une orientation. Irais-je en droit, irais-je en maths sup, irais-je faire infirmière, prendrais-je une année sabbatique, que sais-je. Alors, il réfléchit, alors on lui dit « réfléchis bien, mon enfant ». Alors, il réfléchit bien. Et alors, il fait une espèce de tableau dans lequel il sous-pèse les avantages et les inconvénients. Mais bon, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui va donner un poids déterminant à tel avantage ou à tel inconvénient ? Ce n'est pas dans l'objet. Qu'est-ce qui va lui faire, au bout du compte, élire la solution d'aller travailler comme infirmière ou d'aller prendre une année sabbatique ou d'aller faire une école de commerce ? C'est quoi ? Le niveau de salaire escompté ? La proximité de la formation ? Le déplacement de la copine ? La vie d'un oncle. En général, c'est les oncles. Dans le choix, on fait tout se passe comme si il fallait soupeser les choses, alors que dans la décision, ce dont je prends conscience, c'est que ce que je réalise, ça n'est pas la chose, mais c'est moi. Il y a décision quand je prends conscience que je ne choisis pas une carrière, mais je me choisis. Je ne choisis pas une voiture, mais je me choisis. Oui, je peux sous-peser les avantages et les inconvénients de chaque voiture. Mais au bout du compte, je prends cet exemple qui est facile, mais au bout du compte, en choisissant telle ou telle voiture, c'est moi que je choisis. Une manière d'être, un certain type de rapport au monde, une image de moi-même, quelque chose que j'aurais fait passer avant, je prendrais cette voiture plutôt que d'aller passer des vacances à tel endroit. Ou alors j'irai passer les vacances à tel endroit plutôt que de prendre cette voiture. Et donc on dira par commodité que le choix renvoie donc à l'examen des objets, au calcul, à la pesée des objets et à l'information, alors que la décision advient quand on découvre que l'on décide de soi. Et que là, pour décider de soi, il n'y a pas de pesée. Parce que ma propre vie n'est pas devant moi comme des choses. Quelle que soit la métaphore que l'on peut se donner d'Hercule devant deux chemins. Parce que rien de ce que je suis n'est préalablement tracé et il n'est pas vrai que je sois devant deux chemins. Je peux choisir deux chemins, oui, mais moi, je ne suis pas deux chemins à tracer. Car rien de ce que je suis n'est encore écrit. Même si les chemins, eux, sont tracés. On sait ce que c'est qu'une carrière dans une école de commerce, on sait ce que c'est qu'une carrière d'infirmière. Aristote, dont nous allons parler la prochaine fois, commence son grand livre de morale, enfin son grand livre de morale, le grand livre de morale qui est recueilli sous le titre « Éthique à Nicomaque ». Qu'est-ce qu'Aristote a écrit ? Personne n'en sait rien. Mais on a recueilli un certain nombre de ses traités sous un titre « Éthique à Nicomaque » que nous ouvrirons ensemble lors de notre prochaine rencontre. Et Aristote commence l'éthique à Nicomaque par la distinction extrêmement fructueuse entre produire et agir. Et je pense que cette distinction entre produire et agir peut se superposer à celle que je propose entre choix et action. Produire débouche sur un objet. On fait quelque chose, on fait une chaussure. On produit quelque chose. De telle sorte que l'on peut dire que le produire, poiein en grec, qui a donné poésie, poème, de telle sorte que le produire est transitif. Je fais une chaussure. Agir est intransitif. Je n'agis pas une chaussure. Je n'agis pas quelque chose. J'agis. À quoi tient cette différence ? À ce que dans le produire, la finalité est extérieure au processus et la finalité vient au bout du processus. La chaussure vient au bout d'un processus que l'on peut d'ailleurs décomposer en une technique. Si bien que chacun, avec un peu d'apprentissage, serait capable de faire une chaussure, même moi. Alors que agir ne se décompose pas en une pratique que l'on pourrait éclairer par des conseils et des techniques, agir se déploie en tout moment de l'activité du sujet. Le produire a sa finalité en dehors de lui, la chaussure, l'agir a sa finalité, pour ainsi dire, à tout moment en soi. Même si cette action se voyait interrompue. D'ailleurs, lorsqu'Aristote, qui a un goût assez curieux des exemples, donne un exemple d'agir, il prend l'exemple d'une fleur qui s'épanouit. Nous autres, on a un peu de peine à penser qu'une fleur qui s'épanouit agit. Donc il faut bien réviser ses structures mentales pour lire Aristote. Mais pourquoi est-ce qu'une fleur qui s'épanouit agit ? Précisément parce qu'elle coïncide tout le temps avec son propre développement. Donc agir, ça n'est pas réaliser une fin qui nous est extérieure, mais c'est accomplir une fin qui est la mienne et que, au fond, j'accomplis à tout moment lors du développement de cet agir. Ceci permet de souligner que, d'ailleurs c'est ce que dit Aristote, nous allons le voir lors de notre prochaine rencontre, Aristote définit la technique techné comme la règle du produire, et il définit l'éthique comme la règle de l'agir. Oui, sauf que la règle du produire peut se décomposer en des moments séquencés et matérialisés dans un processus. La règle de l'agir ne se réduit à aucune recette. Vous avez remarqué, les rayons de nos librairies, pour le peu qu'il en reste, sont remplis de conseils de savoir-vivre. C'est intéressant, parce que ça traduit certainement le besoin d'une morale. Mais les conseils de savoir-vivre confondent une morale et une technique. Et ils nous disent, faut pas manger de fromage, ou alors faut manger plus de fromage. Ils nous disent comment bien vivre. Donc ils font comme si l'agir était réductible à un faire. Alors que, évidemment, si la décision morale est celle dans laquelle je décide de moi, cela met au jour ma liberté dans sa radicalité, irréductible donc à un quelconque objet. En effet, décider de soi, pour que cela ait quelque pertinence, encore faut-il que ce soit décidé par soi. Oui, je prends conscience de ce que, lorsque je me demande quelle orientation vais-je choisir, je ne choisis pas une orientation ni un salaire, mais je me choisis moi-même. Tout d'un coup, ça devient plus difficile. Ça fait plus peur. Mais encore faut-il que je décide par moi. C'est-à-dire que là, l'oncle n'aura plus rien à dire. Et ces conseils, si avisés soient-ils, devront être réduits au silence. C'est ici, évidemment, que la morale transparaît lorsque le sujet prend conscience de sa liberté. Et c'est-à-dire que il est exonéré normalement du poids de la nécessité, des menaces, etc. Alors oui, nous pouvons toujours, et c'est vrai, cela illustre bien la difficulté, nous poser la question de savoir ce qu'est une décision dans une situation d'extrême nécessité. Il est possible que les situations d'extrême nécessité suspendent la morale. Lorsque ma vie est en jeu. Les réfugiés de la cordillère des Andes qui ont mangé leurs compagnons de voyage, on peut l'interpréter en disant « la nécessité a suspendu la morale ». L'employé de banque qui a un pistolet sur la tempe, qui lui reprochera d'ouvrir le coffre-fort ? Et encore que il puisse choisir la mort. Je ne le ferai pas à sa place. Je ne vais pas lui dire « Mon petit, tu dois choisir la mort ». Mais il est vrai que quand même, radicalement, il peut choisir la mort. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il choisisse la mort. C'est bien l'étoffe des héros c'est bien ce qui se passe dans un certain nombre de circonstances. Donc la préméditation de la mort est la préméditation de la liberté. Le fait que je puisse envisager la possibilité de ma mort, c'est que je peux envisager ma liberté. Qui, c'est ce que dit Solzhenitsyn quand il rapporte son expérience dans les camps, celui qui n'a pas peur de mourir, personne ne peut rien sur lui. Personne ne peut le menacer, personne ne peut le soumettre. Si vous n'avez pas peur de mourir, c'est ce que nous apprend Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave. Ce qui fait l'esclave, c'est la peur de mourir. Celui qui n'aurait pas peur de mourir ne pourrait pas être réduit à l'esclavage. Donc il y a en moi de la peur de mourir. Mais il y a en moi aussi la préméditation de la mort, la possibilité de la mort. Et cette possibilité de la mort est la possibilité même d'une souveraine liberté qui écarte d'elle toute menace, toute nécessité. Donc s'il y a une seule planche et deux naufragés, même si l'autre naufragé est une fragile jeune fille, il est possible que je l'assomme pour prendre la planche. Personne ne me le reprochera. Mais il est aussi possible que je dise après vous, mademoiselle. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible. C'est-à-dire qu'à tout moment, le sujet peut prendre conscience qu'il décide par soi. Telle est la différence. Alors nous avons esquissé la différence entre agir et produire. Nous allons maintenant esquisser la différence entre la morale et les mœurs. Telle est la différence entre la morale et les mœurs. Ou, à la rigueur, pour faire gros, la morale et le droit. Les mœurs agissent par l'intermédiaire de l'imitation et de l'intimidation qui font que nous passons pour d'honnêtes gens les uns à l'égard des autres. Par exemple, nous, ce soir, nous avons l'air manifestement d'honnêtes gens. Et donc, nous sommes correctement habillés, nous nous tenons bien, vous avez l'air fort poli. Et les mœurs nous permettent de nous tenir à carreau et d'éviter de faire trop de scandales ou de vagues dans les situations les plus communes. En général, c'est ce qui nous tient lieu d'honnêteté. Par exemple, les mœurs mettent en jeu quelque chose qui est très différent de la morale, qui est l'honneur. L'honneur, selon les mœurs, peut exiger, par exemple, que quelqu'un se venge. Un gars qui ne se venge pas, ce n'est pas un homme. C'est ce que dit Tolstoï, l'honneur d'un aristocrate, c'est d'avoir des maîtresses et des dettes de jeu. Un aristocrate qui n'a pas de maîtresses et de dettes de jeu, c'est un minable. La logique des mœurs met en jeu mon image. Il est possible que le sujet qui prenne conscience qu'il a à décider de lui-même accepte même pire que la mort, mais la honte. Il est possible que quelqu'un accepte la honte pire que la mort. Par exemple, ne se venge pas. Puisque la logique de l'honneur, c'est celle de la mafia. Les voyous ont un honneur, non même que ça. Et donc il ne faut surtout pas confondre le registre de l'honneur avec celui de la morale, dans lequel, vous voyez, transparaît et l'extrême liberté et aussi, par là même, l'extrême solitude. Car si quelqu'un, dans une situation donnée, c'est ce que Tolstoï décrit très bien dans Anna Karénine, lorsque le mari d'Anna Karénine, au grand ridicule, décide de ne pas se venger et de pardonner à sa femme, l'imbécile, il se retrouve tout seul. C'est la honte. C'est la honte. Et donc, c'est non seulement assumer sa liberté, mais c'est assumer sa possible solitude. Y compris, donc, par rapport à la pression du groupe. C'est comme ça que marchent les salles de classe. C'est comme ça que marche le principe « faut pas cafeter », ce qui fait que les tricheurs ont la complicité des autres. C'est assez étrange comme fonctionnement. Et celui qui veut s'exempter de ce fonctionnement, il faut qu'il assume d'être seul. En tout cas, voilà, non seulement le sujet prend conscience qu'il décide de soi, mais il prend conscience qu'il décide par soi. Et c'est comme ça que l'exigence morale peut se faire jour en s'ébrouant de la contrainte des mœurs, en s'ébrouant même de la menace du droit. Il y a des tas de choses qui sont conformes au droit qui ne sont pas conformes à la morale, il y a des tas de choses qui sont conformes à la morale qui ne sont pas conformes au droit, et donc ne peut vraiment se mettre en présence de la radicalité de la décision morale que celui qui accepte de boire toute honte et tout jugement, quitte à assumer une solitude superbe. Décider de soi, décider par soi, décider pour soi. Premièrement, décider de soi, décider par soi. Troisièmement, décider pour soi. Oui, on nous présente souvent la moralité comme être gentil pour les autres. On nous dit souvent que finalement, on croit souvent, ça ne doit pas être complètement faux, que la fine pointe de la morale serait l'attention aux autres, la tolérance à l'égard des autres, le secours apporté aux autres. L'exigence morale est d'une autre nature. Elle nous dit que le premier devoir, c'est par rapport à moi. Et que quand bien même je serais sur une île déserte, je ne serais pas exonéré de tout devoir. Et même tout seul, je ne vais pas dire personne ne me voit, ou je ne gêne personne, ou je ne nuis à personne. Et donc, je serais quitte de toute exigence ou de toute décision, je n'aurais plus rien à décider. Cette morale qui assimilerait simplement la moralité avec le respect des autres est au fond celle qui comprend que, selon un adage ressassé et vraiment pitoyable, ma liberté s'arrêterait où celle des autres commence. Si ma liberté s'arrêtait où celle des autres commence, je ne serais vraiment libre que quand les autres ne sont pas là. Et je devrais dire à tous ceux qui sont autour de moi, tu ne peux pas t'écarter, s'il te plaît, pour me laisser un peu de place. Non, s'il y a une quelconque chance de comprendre la relation à autrui, ça serait quand on se rendrait capable de comprendre que ma liberté augmente celle des autres. Mais de toute façon, peu importe. La première tâche d'une liberté, c'est d'être... de s'aimer elle-même, de penser sa propre... Vous voyez, quand je disais l'action, c'est le sujet qui advient à sa propre fin, encore faut-il finalement que ce sujet aime sa propre fin et puisse aimer sa propre réalisation. C'est ce que l'on appelle le bonheur. Vous voyez, tout ça pour accoucher d'une énorme banalité... C'est que la première finalité que l'on peut proposer à la morale, c'est le bonheur. C'est-à-dire précisément l'accord avec soi. Mais évidemment, nous le verrons, on verra que c'est plus compliqué que ça. Tout ceci est une introduction. Donc, si vous restez aux cinq autres rencontres, vous allez voir que ça va se compliquer. Mais pour l'instant, on peut se dire, voilà, décider par soi, décider de soi, décider par soi, décider pour soi. Et la finalité de la moralité, c'est le bonheur. Alors, je dessine les problématiques qui vont suivre au crayon pour que vous puissiez éventuellement les retrouver. C'est qu'évidemment, il y a des chances pour que nous ayons à arbitrer entre une exigence de liberté et une exigence de bonheur. Si j'avais à choisir entre être heureux et libre, que choisirais-je? Ça, c'est les grandes questions des morales. Les cinq grandes morales que nous allons voir nous mettent devant ce choix. Tu choisirais d'être libre ou tu choisirais d'être heureux? Mais y a-t-il nécessairement alternative? Oui. Dommage. Voilà. Et c'est ce qui fait que ce développement apparemment cohérent que je dessine en disant décider de soi, décider par soi, décider pour soi, est un développement dans lequel il y a des accidents. Parce que de temps en temps, je vais devoir sacrifier mon bonheur pour ma liberté ou ma liberté pour mon bonheur. Ça dépend. Ceci nous permet de mettre en évidence donc que la décision morale est donc à la fois la plus. Je terminerai cette première partie par cette conclusion que nous retrouverons souvent, c'est que la décision morale est donc simultanément la plus solitaire et la plus universelle. Il n'y a pas à s'en étonner, car l'universel, c'est ce qui transparaît dans le singulier. L'universel, ça n'est pas ce qui efface la singularité, ce qui décolore la singularité. L'universel, c'est ce qui transparaît dans le singulier. Si vous en voulez quelques exemples intuitifs, c'est ce qui fait que l'être le plus singulier, Socrate par exemple, est en même temps le plus universel. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'audace d'être absolument singulier. Du temps de Socrate, il y avait 200 000 Athéniens. On les a tous oubliés. Il y en a un seul que l'on connaisse et qui traverse les âges, et qui traverse les langues, et qui traverse les civilisations, et qui traverse tout, c'est Socrate, le plus singulier et le plus universel. Les autres sont communs. Ils ne sont pas universels, ils sont communs. Et donc, Giotto et Picasso, qui ont eu l'audace d'être singuliers, ont quelque chose à se dire. Parce qu'ils ont été absolument singuliers. Et Giotto et Picasso sont universels. Alors que les peintres moyens de leur temps sont historiquement reconnaissables, ils sont communs. Voilà la portée de la décision du sujet par soi, de soi, décision de soi, par soi, pour soi. Deuxième partie sur laquelle je passerai plus vite. Comment se fait-il, puisque je suis en capacité de décider de moi-même, comment se fait-il que je ne le fasse pas? Pour reprendre un exemple que les plus familiers du collège supérieur connaissent, parce que je le ressasse ad nauseam, qui a-t-il écrit sur nos paquets de cigarettes « Fumer tue ». C'est étrange. Donc, il y a des gens qui ne savent pas lire? Peut-être. Ou des gens qui veulent mourir? Peut-être. Qu'est-ce qui fait que un savoir n'embraye pas sur une action? Si vous comprenez la question, vous aurez vraiment envie de revenir. Parce que c'est la question de la philosophie. Philosophie. Amour de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire, sagesse? Vous savez que le mot en grec est ambigu, à nos yeux. Puisque sophos, pour nous, est un mot que l'on peut traduire ou par savant ou par sage. Mais c'est ambigu à nos yeux de dégénérer, car pour un grec, celui qui sait est sage. Fumer tue. Le sage, c'est celui qui sait et qui agit en fonction de ce qu'il sait. Savoir, c'est une chose. C'est pour ça que j'ai dit la morale, ce n'est pas la connaissance des principes, mais c'est la décision. car chacun sait ce qu'il doit faire. Vous savez ce que vous devez faire, moi aussi, mieux que vous encore. Et je ne le fais pas. Et donc, voilà, la sagesse, c'est savoir et agir en fonction de ce qu'on sait. Et comment se fait-il que je n'agisse pas en fonction de ce que je sais? Ça, c'est la grande énigme. C'est la grande énigme qui met en évidence les contradictions de l'homme, du sujet que l'on appelle homme. Ces contradictions ont conduit la réflexion anthropologique. Anthropologique, ça signifie qui désigne la nature de l'homme. On conduit la réflexion anthropologique à se dire que l'homme est fait de pièces et de morceaux. Alors, certains diront qu'il est fait d'âme et de corps. D'autres diront qu'il est fait d'esprit, de chair et d'âme. D'autres diront qu'il est fait de raison, de volonté et de sensibilité. Tout ça, on va peut-être avoir le temps de le parcourir. Mais en tout cas, manifestement, l'homme est un être divisé. Enfin, il faut bien penser qu'il est divisé puisqu'il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas ce qu'il veut, au bout du compte. Alors, en général, c'est ce que la philosophie traduit par la distinction de l'âme et du corps. C'est-à-dire qu'il y aurait un domaine dans lequel l'esprit est chez soi, où il se comprend à peu près lui-même, qu'on appellerait l'âme. Puis un domaine où, manifestement, il y a quelque chose qui lui résiste, alors on l'appelle le corps, et dans lequel règnent les émotions, les passions, les hoquets les moi. Et des hoquets qu'on maîtrise plus ou moins bien. On pourrait tous dire comme Turenne, tu trembles carcasse, mais tu tremblerais bien plus encore si tu savais où je te mène, disait Turenne en partant au combat. Il s'adressait à son corps. Son corps aurait bien fait de l'écouter parce que vous savez que Turenne est mort à la bataille de Salzbach d'un boulet reçu en pleine poitrine. Comment se fait-il que je ne fasse pas ce que je veux? Alors ceci nous conduit à deux questions. La première, la plus radicale, pour penser l'exigence morale, c'est au fond, est-il si important d'être soi? Est-il si important d'être libre? Est-il si important d'unifier sa vie? Est-il si important d'être cohérent? Je pourrais très bien m'amuser de mes incohérences, au contraire. Je pourrais très bien jouer de tous les personnages qui sont en moi. C'est incroyable, tous les personnages qui sont en moi. J'ai des milliers de personnages, des assassins, des saints en moi. Des danseurs et des escrocs. Et je pourrais laisser s'ouvrir la gerbe de tous les possibles, au lieu de décider. Ah, vous voyez, c'est là qu'on voit l'enjeu de l'idée de décision. C'est que l'idée de décision suppose que on trouve important d'unifier sa vie. On trouve important de rester le même dans des moments différents. On trouve important d'être reconnu, car quelqu'un qui n'unifie pas sa vie, on ne l'est pas reconnu, on ne le reconnaît pas. On dit « Oh, comme il a changé ». Mais après tout, je pourrais au contraire, et c'est ce qui caractérise ce que Kierkegaard appelle l'esthète, le mot est à peu près passé dans la langue maintenant. Celui que Kierkegaard appelle l'esthète, c'est celui qui veut vivre de sensations, aesthésis, ses sensations. Celui qui ne veut pas refermer la gerbe fascinante des sensations et qui ne veut pas refermer les possibles et qui s'enivre de tous les possibles qui sont en lui. Il préfère rêver sa vie plutôt que décider. C'est quelque chose que l'on retrouve parfois dans les mentalités adolescentes. Et parce que le rêve, apparemment, laisse ouvert l'éventail des possibles, alors qu'évidemment, l'action, elle suppose une insertion limitée, finie. Tu es ici et pas ailleurs. Tu fais ça et pas autre chose. Donc l'esthète, tel que le décrit Kierkegaard, qui est bien incarné par l'opposition de Don Juan et de l'époux, l'époux, c'est celui qui décide. Mais tiens, c'est un bon exemple, l'époux. L'époux ne choisit pas, on ne choisit pas sa femme. On décide de se marier, mais on ne choisit pas sa femme. Ça, c'est un exemple lumineux. Et celui qui décide de se marier, il perçoit ce qui peut faire l'unité et le sens de sa vie. Il ne soupèse pas les avantages et inconvénients des différentes femmes disponibles sur le marché. Tour de taille, quotient intellectuel, compte en banque. Je vous laisse soupeser l'importance des critères. Eh bien, l'opposition donc du Don Juan et de l'épouse, c'est bien celle-ci. Donc Don Juan, c'est celui qui s'enivre des 1003 conquêtes possibles et donc ajourne sans cesse l'exigence de décider, alors que l'époux est précisément celui qui décide, non pas de la femme qu'il va épouser, mais de se marier. Donc voilà. Est-il si important d'être soi ? Je disais tout à l'heure que la philosophie a comme interlocuteur l'homme de l'opinion, que la philosophie a comme interlocuteur celui qui refuse de s'expliquer. Il y a de fortes chances que, sur les questions morales, l'interlocuteur de la philosophie, ce soit justement cet esthète qui sourdement trouve quelque peu ennuyeuse la perspective d'unifier sa vie, qui assurément trouve un peu bourgeoise la volonté de cohérence, de transparence, et tout ce qui pourrait, par l'intermédiaire de cela, prendre forme d'un devoir. Et alors, évidemment, c'est difficile de parler avec Don Juan. Don Juan chante. Pour parler avec lui, c'est un peu difficile. Ou alors, il ne me répondra que de manière ironique, comme il répond à Sganarelle. Ou alors il parlera en séducteur, comme il le fait avec les femmes qu'il abandonne le lendemain. Ça, c'est la première question. Est-il si important d'être soi ? Et puis, la deuxième question, que j'ai déjà quelque peu évoquée, qui nous fait rentrer vraiment dans l'agir moral, ce sera nos chapitres suivants, c'est comment un savoir embraye-t-il sur une action ? Ça, c'est une lourde tâche que de le comprendre. C'est-à-dire, comment décide-t-on ? Je disais tout à l'heure, nul ne décide pour appliquer des principes. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait une espèce d'embrayage qui va des principes à la motion, à la mise en mouvement. Donc tout se passe comme si c'était dans... l'image de l'embrayage, je l'aime bien, parce que ça veut dire que c'est au fond dans l'obscurité même du sujet que se noue le lien de ce que l'on appelle l'âme et du corps et qui au fond échappe au regard. Le lieu où l'âme et le corps s'unissent échappera à jamais au regard. Et c'est là qu'une volonté peut prendre forme d'action, de résolution, de devoir, parfois. Alors voilà pourquoi les philosophes que nous allons parcourir, chacun à leur manière, essayent de trouver un chemin de la maîtrise de ce qu'on appelle les passions. Ce qu'on appelle les passions, c'est justement ce qui nous fait pâtir, ce qui nous empêche d'agir, et ce qui détourne la liberté de son exercice par le bouleversement des émotions, puisque les émotions arrivent juste au moment où il ne faut pas. C'est le moment où il faut que je me maîtrise devant l'examinateur, que je me mets à pleurer. Et donc, après, il vaut mieux que je sache comment je maîtrise mes passions quand même. Je ne vais pas dire à l'examinateur, vous avez vu ce moment bouleversant. Les philosophes cherchent, puisqu'il s'agit de savoir et d'agir en fonction de ce qu'on sait, donc d'embrayer un savoir et un agir, quelle est la gestion, pour prendre un mot qui plaît à nos contemporains, des émois que l'on peut obtenir. Gestion, pas terrible, mais bon, ça se comprend. Enfin, troisième partie, il y a ultimement, dans cette réflexion donc, sur la décision morale, donc on a vu des enjeux anthropologiques considérables, importe-t-il d'être soi-même et qu'est-ce qui fait l'unité d'un homme, et puis des enjeux métaphysiques, qui sont certainement les plus décisifs. Enfin, ils sont tous décisifs. Puisque je disais décider de soi, décider par soi, décider pour soi. Oui, oui. Seulement, décider de soi alors même que je suis né sans l'avoir voulu. Ce qui est le cas de beaucoup. Et que donc que signifie l'exigence cristalline de liberté que j'ai essayé de montrer pour quelqu'un qui n'a pas choisi sa naissance, n'a pas choisi son époque, n'a pas choisi son corps, c'est vrai que ça préoccupe aujourd'hui, n'a précisément rien choisi. Ça permet de mettre en évidence la différence entre décision et choix. J'ai pas choisi d'être un homme de sexe masculin. C'est dommage, ça m'oblige à passer le deuxième aux portes et à porter les paquets. J'aurais pu choisir... Si, je vous assure, c'est un inconvénient. Il y en a qui n'ont pas l'air de croire que c'est un inconvénient. Mais voilà, ça permet de bien mettre en évidence la différence entre décider et choisir. Que signifie que je puisse décider de ma vie dans l'horizon d'une naissance que je n'ai pas choisie ? Non seulement dans l'horizon d'une naissance que je n'ai pas choisie, mais d'une mort que je ne choisirai pas. Et donc, ma liberté semble prise entre deux abîmes d'irrationalité, que serait donc d'être jeté dans le monde, pour reprendre l'expression qui sera celle de certains existentialistes, et d'être un être pour la mort, pour reprendre encore une expression chère aux existentialistes. Donc Heidegger nous dit « je suis jeté dans le monde », c'est la Geworfenheit, « je suis jeté dans un monde, je suis là, je suis jeté dans un monde que je n'ai pas choisi, et puis je suis un être pour la mort ». Et donc c'est un crépuscule qui m'est ouvert entre deux nuits. Et que vais-je faire dans la clarté blafarde de ce crépuscule ? Donc, c'est pourquoi d'ailleurs la question métaphysique n'est pas tant celle de la mort que celle de la naissance. D'ailleurs, c'est non seulement, et on le voit bien dans les débats contemporains, c'est non seulement la question de ma naissance, mais c'est aussi la question de la naissance de ceux que je vais engendrer. Car c'est la même logique de savoir si je crois choisir, là. Qu'est-ce que ça serait qu'un enfant qu'on aurait choisi ? Et on voit bien qu'on est bien dans tout autre chose que la simple logique du choix. Et que le mystère, alors il faut utiliser le mot, que le mystère de la naissance donc, éclaire singulièrement l'horizon de la morale et l'exigence où nous sommes de décider de ce que nous avons à faire. La question métaphysique est donc, quel est le monde dans lequel je suis né ? Alors on va voir toutes les grandes morales, puisque nous allons parcourir les grandes morales, Aristote, Épicure, etc. Je le ferai avec plus ou moins de clarté ou d'élégance, mais on va voir qu'au fond, toutes les grandes morales sont liées non seulement à une métaphysique, c'est-à-dire à une orientation sur le sens de cette existence, mais même à une cosmologie, c'est-à-dire, puisque une cosmologie est liée à une métaphysique, quel est le monde dans lequel je suis né ? Est-ce que ce monde est un système harmonieux ? Est-ce qu'il est un désordre total ? Est-ce qu'il est une création ? Est-ce qu'il est finalisé ? Est-ce qu'il est un mécanisme ? Est-ce qu'il est une machine, une horloge ? Et si je pense le monde comme une horloge, si je pense le monde comme finalisé, si je pense le monde comme harmonieux, si je pense le monde comme un désordre, évidemment, ça renvoie à une position singulièrement différente du sujet. Et cette question n'est pas simplement cosmologique, elle est métaphysique. Puisque ça consiste aussi à se dire, dans ce monde, est-ce que je peux lire une intention ? Dans ce monde où je suis tombé, est-ce que je peux lire une intention ? Car, et c'est l'autre aspect de la question métaphysique, du lien entre la question métaphysique et la question morale, donc vous voyez qu'on a du travail, hein. Oui, je décide de moi dans un monde où pourtant je n'ai pas décidé de naître, je n'ai même pas choisi de naître, je n'ai pas choisi, je ne choisis pas ses parents, je ne choisis pas sa famille. Mais en outre, je vis manifestement dans un monde qui est complètement indifférent à mes préoccupations morales. Il s'en tamponne, le monde. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et quand il y a un ouragan qui se déclenche, il ne choisit pas si c'est des innocents ou des coupables. Et quand je déploie les meilleures intentions du monde, je disais tout à l'heure, j'ai les bras trop courts, et les meilleures intentions du monde n'arrivent pas à se transformer ce monde. Et donc, que signifie une vision morale du monde dans un monde indifférent à une vision morale ? Est-ce que la somptueuse et minérale indifférence du monde annule la pertinence de nos décisions ? Vous savez, c'est la fin. Un auteur qui l'a compris de manière lumineuse et qui nous le fait comprendre de manière lumineuse, c'est Camus. Relisez L'étranger, à la fin de L'étranger, c'est le seul moment où Meursault, ça veut dire Meursault. Il meurt, saut. Et c'est le seul moment où Meursault s'énerve et prend l'aumônier de la prison au col et lui dit « Le souffle obscur qui remonte de mon avenir égalise tout sur son passage. » C'est-à-dire la mort égalise tout sur son passage. Et donc le souffle obscur qui remonte de mon avenir égalise tout sur son passage, si bien que subspecie mortitudinis, sous l'aspect de la mort, un chien vaut un homme. Le poil de mon chien vaut les cheveux de ma maîtresse. Et donc l'horizon de la mort égalise tout sur mon passage. Et à la fin, Meursault allant à la guillotine, je crois que c'est la dernière phrase du livre, se livre à la tendre indifférence du monde. L'indifférence du monde. Et si effectivement ce monde complètement indifférent à sa propre beauté, d'ailleurs, sans doute, et en tout cas à toute finalité morale, est aussi muet, comment pourrais-je prétendre voir reconnaître mes décisions et mes finalités, mes visées morales dans un monde aussi indifférent ? Vous l'avez reconnu, c'est la question de ce que l'on appelle le problème du mal. Et donc, une vision morale du monde ne peut pas manquer de se heurter au problème du mal. La souffrance des innocents, les guerres, enfin bon, on ne va pas s'apesantir là-dessus, les cruautés, les massacres, tout ça. Ce monde ne répond pas à l'exigence morale. Et donc, ça pose bien la question métaphysique. Non seulement dans quel monde suis-je, mais comment est-ce que je peux penser qu'une finalité morale peut être accordée à ce monde, peut être vécue en accord avec ce monde ? C'est la fameuse question soulevée par Dostoïevski dans Les frères Karamazov, lorsque Ivan Karamazov dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Si Dieu n'existe pas, tout est permis, ça veut dire que le souffle obscur qui remonte de mon avenir égalise tout sur son passage, ça veut dire que l'indifférence du monde égalise toutes les décisions. Voilà, nous avons tracé les... Enfin, il y a d'autres manières d'aborder la question, c'est la manière dont j'ai choisi de l'aborder, les grandes questions de la morale. Cela me permet de proposer de lire les grandes doctrines morales en disant qu'il y a fondamentalement trois grandes doctrines morales. Les morales que l'on peut appeler morales de l'excellence ou morales du bonheur. Excellence, en grec, ça se dit arete, vertu. Donc quand vous entendez le mot « vertu » dans un texte ancien, pensez pas, je ne sais pas quoi, à quelqu'un qui est confit dans le Saint-Cyrau du devoir. Vertu signifie excellence en grec. Il faut toujours penser que pour un grec, il y a une vertu du manteau. Et la vertu du manteau, c'est de tenir chaud. Donc il y a des manteaux vertueux. Et donc, pour les morales antiques, qui restent vraies aujourd'hui, parce que l'histoire ne procède pas de manière successive, mais par empilement, pour les morales antiques, donc la morale, c'est la morale de l'excellence accomplie dans le bonheur. Et c'est ce qui correspondrait, au fond, à ce que j'ai dit en disant qu'il faut décider pour soi. Et le décider pour soi, c'est pour assumer son excellence. Ça, c'est un homme. C'est la vie bonne. C'est la vie bonne. Deuxième type de morale qui se dessinera davantage dans la modernité, on verra pourquoi, sont les morales du devoir. Ou plutôt que le bonheur, on privilégiera la liberté. On mettra l'accent sur la liberté. Morale de l'excellence, plutôt les morales antiques. Morale du devoir, plutôt les morales modernes qui culminent chez Kant. Et qui correspondrait à ce que j'ai dit ou essayé de dire en disant que la décision morale, c'est la décision par soi. Puisque les morales du devoir vont insister sur la liberté et la nécessité de décider par soi. Enfin, troisième morale qui correspond plus à l'époque contemporaine, qui serait les morales de l'authenticité. Morale de l'excellence, morale du devoir, morale de l'authenticité. Qui correspondrait à ce que j'ai dit en évoquant le décider de soi. One more time. Morale de l'excellence, décider pour soi. Morale du devoir, décider par soi. Morale de l'authenticité, décider de soi. C'est ce qui fait qu'il y a essentiellement trois grandes morales que nous allons dessiner, sans exclure qu'il y en ait une quatrième. Mais, fondamentalement, dans l'histoire de la philosophie, on peut reconnaître, au prix de quelques simplifications, trois grands courants, trois grands aspects de la morale. Morale de l'excellence, morale du devoir, morale de l'authenticité. Je m'étais promis de partager avec vous la lecture du texte de l'Apologie de Socrate. Je voulais le commenter, nous ne ferons que le lire. Nous ne ferons que le lire pour vous laisser le temps, pour que nous ayons le temps d'échanger quelque peu. Nous sommes devant le texte fondateur. S'il y avait un seul texte à garder de la philosophie, c'est l'Apologie de Socrate, qui est, vous le savez, le discours probablement tel que Socrate, assez proche de ce que Socrate a effectivement dit au tribunal, rapporté donc par Platon. Tout laisse penser que ce texte est assez proche de la vérité historique, puisque on sait en tout cas que Socrate s'est montré extrêmement impertinent à l'égard de son tribunal, et on lui a reproché de parler avec hauteur, et qui nous met en présence de la vocation du sage, de la vocation philosophique. J'aurais dû le commenter, on se contente de le lire pour avoir ensemble un même texte. Et puis c'est le texte fondateur. Donc Socrate s'adresse, vous savez, donc il est accusé de corruption de la jeunesse et de non-respect des dieux de la cité, et qu'il va se voir donc condamné à mort sous ces deux chefs d'accusation, ce qui est le scandale inaugural de la philosophie, c'est-à-dire le sage par excellence est condamné par la cité. L'Occident a ses fondations bâties sur deux condamnés à mort, Socrate et Christ. Deux condamnés à mort coulés dans les fondations. Qui d'ailleurs ont à peu près la même attitude à l'égard de leur juge. On me dira peut-être, n'as-tu pas honte, Socrate, d'avoir mené un genre de vie qui aujourd'hui te met en péril de mort ? À cela, je serais en droit de répondre, il est mal, mon ami, d'affirmer, comme tu le fais, qu'un homme de quelque valeur ait à calculer ses chances de vie et de mort, au lieu de considérer uniquement, lorsqu'il agit, s'il fait quelque chose de juste ou non, s'il se conduit en homme de cœur ou en lâche. C'est que le vrai principe athénien le voici. Quiconque occupe un poste, qu'il l'ait choisi lui-même comme le plus honorable ou qu'il y ait été placé par un chef, a pour devoir d'y demeurer ferme, quel qu'en soit le risque, sans tenir compte ni de la mort possible, ni d'aucun danger, plutôt que de sacrifier l'honneur. Alors, on voit l'ambiguïté de l'idée d'honneur. Donc, Socrate justifie sa position, mais on voit aussi l'horizon de la mort. Et préméditation de la mort comme préméditation de la liberté. Et donc, Socrate, face à l'oppression potentielle des juges, s'en émancipe aussitôt par la possibilité de la mort. En agissant autrement, Athénien, j'aurais été très coupable. Comment ? Quand un dieu m'avait désigné pour tâche, comme je le croyais, comme je l'avais admis, de vivre en philosophant, en scrutant et moi-même et les autres, moi, par peur de la mort ou par crainte quelconque, j'aurais déserté ? Ah, c'est bien là, ce qui eût été mal. Et c'est alors qu'on m'aurait justement traduit en justice et accusé de ne pas croire au dieu, croyant savoir ce que je ne savais pas. Qu'est-ce en effet, juge, que craindre la mort, sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point ? N'est-ce pas imaginer savoir ce que l'on ignore ? Car enfin, personne ne sait ce qu'est la mort. Et pourtant, on la craint, comme si l'on savait ce qu'elle est, comme si l'on savait qu'elle est le plus grand des maux. Comment ne serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible qui consiste à croire qu'on sait ce qu'on ne sait pas ? Eh bien, c'est en cela que je diffère de la plupart. Ce que je sais, au contraire, c'est qu'il est mauvais et honteux de faire le mal, de désobéir à meilleur que soi, homme ou Dieu. Jamais donc je ne consentirai à un mal que je sais être tel par crainte d'une chose dont on ignore si elle est bonne ou mauvaise et pour l'éviter. Admettons que vous me teniez ce langage, Socrate, nous allons t'acquitter. À une condition toutefois, c'est que tu ne passeras plus ton temps à examiner ainsi les gens et à philosopher. Si on t'y prend, tu mourras. Si, pour m'acquitter, vous vouliez m'imposer cette condition, je vous répondrai. Athéniens, je vous sais gré et je vous aime. Mais j'obéirai au Dieu plutôt qu'à vous, et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que j'en serai capable, soyez sûr que je ne cesserai pas de philosopher, de vous exhorter, de faire la leçon à qui de vous je rencontrerai. Et je lui dirai, comme j'ai coutume de le faire, « Quoi, cher ami, tu es citoyen d'une ville plus grande, plus renommée qu'aucune autre pour sa science et sa puissance, et tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs. Mais quant à ta raison, quant à la vérité, quant à ton âme, qu'il s'agirait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas ? Tu n'y songes pas ? » Là-dessus, Athénien, acquittez-moi ou ne m'acquittez pas, mais soyez certain que je ne changerai jamais de conduite quand je devrais mille fois m'exposer à la mort. » Il est heureux qu'on termine par ce texte.